Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Nous sommes des milliers, des millions, partout, à avoir été nommés de ces quatre lettres qui font trembler le sol. PD. Nous sommes PD. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Anthony Vincent, Camille Desombres et Adrien Nazelli à l'occasion de la publication de leur ouvrage collectif PD aux éditions Point. C'est parti. Bonsoir Anthony.
Bonsoir.
Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
C'est très chouette de vous recevoir. Vous faites partie de ce collectif de 8 personnes qui ont donc donné naissance à ce livre, qui est un inédit. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup, ou la plupart, voire peut-être quasiment tous, en dehors de Sororité, de Chloé Delhomme, des livres dans cette collection qui étaient d'abord parus chez un autre éditeur et qui deviennent en poche, vous, vous y êtes arrivé direct. Alors, comment ça s'est passé cette affaire? Évidemment, j'allais vous poser cette question. Comment est né PD?
Alors, Florent Manelli, qui a coordonné l'ouvrage, nous a contactés un à un pour essayer de former ce collectif. Et ensuite, on a proposé le manuscrit à différentes maisons d'édition et ça nous paraissait hyper important d'être accessible, en fait. Et c'est pour ça qu'on a été très intéressés par la proposition de Point, parce que ça permettait de sortir directement en poche, donc à un prix relativement accessible.
Oui, c'est ça l'idée. C'était qu'on voulait, enfin, en appelant un livre PD, on s'est dit, ça parle probablement, potentiellement, à énormément de monde, et donc sortir dans une collection plus chère, qui serait à 19, 20 ou plus, ça nous semblait pas adapté au projet. Et surtout, on aimait beaucoup des livres qui ont déjà paru ici, je pense. C'était une collection très identifiée.
Oui, on avait une autre option un peu plus universitaire, et je pense que celle-là était chouette, parce qu'elle est assez identifiée, et assez pop, presque.
C'est assez significatif, d'ailleurs, que ce soit une collection féministe, en tant que PD, d'être là, en fait, avec nos sœurs. C'est hyper important pour nous, aussi, de se situer dans une forme de communauté, aussi, avec les féministes, quoi.
D'autant que il va y avoir, je crois que c'est toi, Camille, qui en parle, de Sororité, de Chloé Delhomme.
Le lien avec Sororité est assez évident, ouais. Et notamment... Là, si tu fais référence au terme de pédérité, en fait, moi, il m'avait été un peu glissé dans une conversation par mail avec un auteur qui s'appelle David Le Guermic et qui faisait explicitement référence à Chloé Delhomme. Alors, à l'époque, il avait employé le mot de pédérité, mais il m'avait dit « j'aimerais qu'on ait des espaces pour fabriquer une solidarité pédé, une pédérité à l'instar de ce qu'a fait Chloé Delhomme. »
Ce qui est d'autant plus génial, et vraiment, je dis génial, parce que pour avoir lu quand même beaucoup de livres de collectifs, en fait, généralement, on compte beaucoup sur la personne qui coordonne pour faire le lien. Et là, c'est pas du tout le cas pour vous. En fait, vos textes, ils sont lignés les uns aux autres grâce à vous-même, en fait. C'est-à-dire que le premier auteuriste va amener le texte du suivant, etc. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit, en fait, il y a vraiment un soin d'amener vers l'autre texte, vers l'autre thématique, vers l'autre point. Et c'est quelque chose qui vous est venu en collectif. C'est-à-dire que vous avez toute cette idée-là, ou non, tout le monde regarde Anthony.
Non, mais je crois que c'était Nantené. Je crois que c'était Nantené Traoré qui écrit dans le livre... aussi, un texte merveilleux, qui avait suggéré cette idée-là, en fait, parce qu'on réfléchissait à comment créer du lien pour pas passer d'un texte très intime et politique à un autre sans créer de rupture. Et du coup, ces intertextes nous permettent justement de se donner la main à travers nos textes. Et c'est assez beau, je trouve. Ouais.
Et inédit dans l'histoire du monde.
On a inventé l'écriture.
Attends, il est marqué inédit sur le livre. Il y a intérêt à ce que les choses soient inédites jusqu'au bout.
Mais toi, t'avais jamais vu ça.
Ah ben non, ou en tout cas, je m'en souvenais pas, mais là, après, je pense que peut-être le lien se fait tellement bien avec vos propos et la façon, en effet, dont vous montrez qu'il faut recréer une solidarité, ou en tout cas la remettre en avant, que là, en fait, c'est comme la théorie et la pratique, en fait. C'est, on a dans vos textes cette idée-là, et en plus, on la voit dans la façon dont vous écrivez. C'est hyper beau.
Effectivement, et en plus, je trouve que, enfin, c'est sans doute une impression partagée parmi nous, mais que bah, les histoires PD, elles sont souvent racontées de manière individuelle, et faire du collectif, c'est aussi ça, en fait, il fallait l'incarner, et si un texte le permette, et j'ai eu l'impression en grandissant que les histoires PD, c'était des pointillés, et je voulais qu'on les relie ensemble aussi, et c'est ce que fait ce livre.
Oui, totalement. Mais d'autant qu'en plus, vous n'écrivez pas de la même manière. En fait, chaque texte a son endroit d'écriture, son endroit d'autofiction, son endroit de théorie, etc. Et que de faire sens de tous ces sujets-là ensemble, c'est ce qui apporte aussi le principe de peut-être un peu de communauté, de faire famille, de tous des termes en fait que on va mettre à chaque fois à côté des mots qui vous font exister. Alors là, sur le livre. S'il est bien marqué PD, mais vous allez aussi parler homosexuel, gay. Alors après, certains vont parler aussi des autres insultes, des autres façons de se nommer. Mais c'est vrai que de parler comme ça d'identité au plus large, il fallait faire des ponts entre chacun, chacune, etc. Et c'est très beau. Donc pour revenir là à ces endroits où vous vous nommez, écrire PD sur une couverture. D'ailleurs, en équipe, je disais aux filles, en fait, je suis pas très à l'aise à dire ce mot parce que, en fait, j'ai bien compris que, voilà, ça m'appartenait pas de le dire parce que je ne suis pas PD, donc je ne le dis pas normalement, mais que ça allait être compliqué dans une rencontre de pas le dire. Et donc, ma première question vraiment, c'est comment vous vous sentez avec ce titre? En fait, qui est à travers beaucoup de bouches, en fait, beaucoup de personnes de ce fait le disent. Enfin, des personnes qui ne le sont pas, vous êtes à l'aise avec ça?
Bah déjà, nous, ça nous a posé plein de questions. C'était pas du tout évident que ce soit le titre final, je pense. Parce qu'on est plusieurs à avoir évidemment été copieusement insultés par ce mot dans nos vies. Et donc, à quoi ça rime? On connaît le principe de réappropriation de l'insulte, mais à quoi ça rime de le mettre nous-mêmes dans le monde comme ça? Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à dire à mes parents « Ah bah, le livre s'appelle PD », j'ai dit. Donc c'est bizarre, alors que normalement entre nous on l'utilise entre amis, moi je l'utilise beaucoup, mais ça nous a, ouais, ça a fait des débats en tout cas. C'était pas évident que ça s'appelle PD au début.
J'étais contre.
C'est pour ça que je te regarde.
Ouais, non, j'étais contre, parce que justement, c'est un terme que j'utilise pas personnellement. Et je sais aussi pourquoi plein de personnes l'utilisent et le revendiquent fièrement. Et c'est important qu'on puisse le faire. Les personnes qui décident de le faire, c'est important qu'elles puissent le faire. Je suis pas contre l'emploi en général. C'est juste, moi, personnellement, je l'utilise pas. Mais c'est aussi un ouvrage collectif. Et puisque la majorité du collectif voulait ce titre, c'était intéressant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le texte que j'ai écrit, c'est... Justement, je me suis demandé pourquoi ça me questionnait autant, pourquoi j'étais si mal à l'aise à l'idée d'utiliser ce terme. Et c'est l'objet de mon texte, c'est quoi le retournement du stigmate et comment est-ce qu'on peut trouver de la puissance à l'emploi d'un terme qui nous a autrefois insultés, qui nous a terrorisés, mis à terre. Et j'ai failli intituler mon texte d'ailleurs Makoumé, qui pourrait être traduit par PD en créole, parce que je viens de la Martinique et c'est une insulte que j'ai entendue énormément et que j'entends encore parfois. Mais je trouvais ça intéressant aussi de faire ce travail-là de réappropriation du stigmate, de le retourner à travers le texte. Et depuis que j'ai écrit ce texte, ça me blesse moins de l'entendre autour de moi. Et j'y trouve même une forme de fierté. Et surtout, en fait, à travers ce collectif, en fait, quand on est ensemble et que j'entends des co-auteurs dire PD, bah, je me recroqueville plus. Au contraire, je bombe le torse et je casse le poignet encore plus.
Et moi, à l'inverse, j'étais très pour. Moi, c'est un mot qui m'est assez cher et comme je le raconte dans mon texte, il est tatoué sur ma cheville droite. Et voilà, c'est aussi le nom que j'avais donné à un poème que j'avais écrit, que je lis parfois dans des open mic qui ouvrent d'ailleurs mon texte. C'est aussi le nom que j'ai donné à d'autres projets en cours sur lesquels je bosse. Et moi, c'est vraiment le mot que j'emploie pour me définir politiquement. Et oui, c'est un peu gênant parfois, dans certains contextes, de dire « Ah, j'ai écrit un texte qui s'appelle... » Enfin, je fais partie d'un recueil qui s'appelle PD, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut en changer le sens et resignifier ce mot. Et tu disais « Tiens, qui a le droit ou pas de dire PD ?» Moi, c'est une question qui m'intéresse qu'à moitié. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas tant qui peut employer ce mot, mais dans quel contexte et pour y accoler quel terme. finalement, moi, si un mec hétéro, âgé, disait « Ah, j'ai vu des pédales magnifiques dans la rue hier », je trouverais ça assez chouette, en fait. Et donc, alors que finalement, des personnes queer qui vont dire « pédé » de manière très négative, je pense que ça va me blesser beaucoup plus. Donc, c'est pas tant qui se l'approprie ou l'emploie, mais à quelle fin. Et voilà. Et j'ai tout un jeu, alors je vous le dis, comme ça peut-être ça va finir par prendre, mais qui est un peu débile, mais justement je me suis dit, tiens, qu'est-ce que, en anglais, that's gay, ça veut vraiment dire c'est de la merde, enfin aux États-Unis, et je me suis dit, tiens, ce serait hyper drôle si pédé ça voulait dire stylé, et du coup avec...
Genre trop pédé cette rencontre.
Avec des... voilà. Et du coup avec... bon, alors il y a un seul pote pour l'instant avec qui j'arrive à faire ça, mais quand quelqu'un fait... quand on fait un truc cool, on se regarde, on fait pédé, comme ça. Et je me suis dit, ça pourrait être très très drôle si on arrivait à resignifier ce mot et en faire un endroit hyper chouette.
Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir, par exemple, bah, ce mot apparaître dans les mains de gens a priori qui sont pas homophobes. Ça fait plaisir parce que c'est une manière de le distiller un peu comme les personnes qui entourent de cœur PD dans les rues. Quand il y a une insulte qui est taguée, on peut les customiser et changer le sens.
Ah oui! Oui, ça, je ne l'avais pas en tête, c'est super joli, c'est vrai. Et puis, en fait, le fait d'être imprimé sur un livre, il y a quelque chose d'une visibilité autre. Parce que, en fait, quand on réfléchit en fait, à la façon dont cette fameuse communauté existe en fait, dans les livres, il y a quelque chose quand même d'encore petit. En fait. C'est-à-dire que, autant ces dernières années, on a pu voir... moult livres sur les féminismes, bon évidemment toujours avec notre prisme assez blanc, bourgeois ou en tout cas favorisé, etc. Donc ça commence à bouger évidemment, mais des livres en fait sur les homosexuels qui ne sont pas forcément des romans un peu, et je vais me permettre, mais parce que les couvertures sont toujours à mourir de rire quand même, un peu aguicheuses avec des muscles saillants, etc. Je veux dire, moi j'ai pas eu beaucoup de propositions en fait de titres comme ça, et donc bon, je me demandais et vous faites ce travail aussi en fait de faire le lien avec des écrits qui vous ont précédé, etc. Mais quel est votre rapport au livre sur ces sujets-là en fait, parce que ce que vous avez écrit d'une certaine manière on le trouve un tout petit peu chez quelques auteurs encore publiés, mais il n'y a pas une biblio non plus incroyable, il me semble, hein. Corrigez-moi si je me trompe.
Non.
Non, effectivement, et en fait c'est assez amusant parce qu'on s'est pas concerté en écrivant nos textes et on a plusieurs références communes en fait. Je crois qu'on est plusieurs à citer Didier Ribon, on est plusieurs à citer Michel Foucault, on est plusieurs à citer certains auteurs et effectivement c'est des choses qui m'ont forgé personnellement. Par exemple, je me suis compris PD à travers des textes, à travers Hervé Guibert, à travers Roland Barthes, à travers d'autres personnes encore, et ça m'a aidé à me sentir moins seul. Et pourtant à chacun de ces auteurs-là écrivait leur solitude respective. Et c'est pour ça que ce collectif a encore énormément de sens. Et le fait qu'il ait ricoché, qu'on soit plusieurs à parler de Didier Ribon, en l'occurrence, je crois que c'est celui qui est le plus cité, et ben, c'est très, très révélateur aussi du manque de référence et du fait qu'en fait, on a très, très peu d'appui, de soutien, de matière, en fait, qui nous aide à avoir, à toucher terre et à rêver aussi.
Et son disciple, on va dire, Édouard Louis, que moi, j'ai lu quand j'étais quand même encore assez jeune, parce que du coup, c'était quoi, 2013, il y a 10 ans, est très seul. Enfin, malgré son immense succès et malgré le fait que le livre est traduit en peut-être 40 langues maintenant, en fait, il a au début raconté son histoire, il a été médiatisé de manière assez violente, accusatrice. C'était un peu... Enfin, je pense que c'est le dernier gay qui a fait un tel buzz médiatique avec ses écrits. Et il était, lu, acheté, donc ça c'est bien pour lui, mais par contre aussi extrêmement attaqué et extrêmement seul face aux attaques.
Et oui, moi c'est aussi pour ça que j'aimais bien le mot PD, c'est qu'il permet de s'inscrire dans une histoire. Et moi les auteurs que je cite, c'est plutôt Guillaume Kerngem pour les années 70, Dustan pour les années 90, qui étaient à leur manière aussi dans des constitutions de communautés politiques. Et je trouve que PD, ça permet aussi de rappeler qu'on part pas de nulle part. Mais c'est vrai que je pense que derrière le succès de ce livre-là, en fait, s'il marche, c'est aussi parce qu'il y a peu de propositions et qu'il y a un peu un vide. C'est que la plupart de nos références sont pas très contemporaines. Enfin, Oui, Didier Ribon, je crois que Réflexion sur la question gay, ça date de 95. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écrits théoriques sur la question gay au PD. Et voilà.
On est trois en boîte de nuit.
On a pas. Mais je crois qu'il y a Antoine Didier qui sort un autre livre aujourd'hui même. Et avant ça, il avait écrit un livre sur les archives LGBT+. Et là, je crois que c'est sur les résistances, les luttes plus contemporaines. Et il y a quelques essais comme ça, de manière très très isolée. Mais PD, ça nous permet justement de faire une proposition éditoriale à plusieurs, direct, comme ça.
Il y a
ça,
pas beaucoup de récits, en fait. Il y a parfois quelques signes
oui,
comme
c'est
cela,
vrai,
mais c'est vrai que des récits de vie ou de pensée, il n'y en a pas beaucoup.
Bah, j'en vois beaucoup à l'étranger, par exemple. Et encore, c'est parce qu'ils sont tellement isolés, même à l'étranger, qu'ils arrivent jusqu'à mes yeux et mes oreilles. Je pense à Guapa, je pense à On Earth, We Are Briefly Gorgeous, et Ocean certains Wong. Livres comme ça, oui, Ocean Vuong, et c'est vraiment des merveilles, mais là encore, si elles arrivent jusqu'à nous, c'est aussi parce que ça a fait une percée, parce que c'est tellement rare, en fait.
Oui, c'est ça. Et puis, on l'a entendu, il y a un principe aussi de génération qui est assez fort, c'est-à-dire que oui, Dustan, Lagarce, Guibert, enfin, là, pour le coup, on est sur des auteurs qui, même si on est peut-être à un endroit pointu de la littérature, sont là, enfin ils sont quand même assez trouvables et qui vont raconter une histoire assez commune dans le sens où ça a été une histoire générationnelle en fait de beaucoup d'hommes qui ont vécu les violences de l'épidémie du sida, qui sont décédés souvent et quand même la plupart du temps de ça, etc. Et je me souviens quand j'ai reçu El Point Bigora des éditions Terrasse et un peu plus tard Lucien Fradin pour son livre Au vent ternier. En fait, on était face complètement à deux générations en fait qui ne racontaient pas le même endroit en fait de lutte et de visibilité. Et c'est vrai qu'on a tendance, j'ai l'impression, à avoir beaucoup de choses peut-être d'avant. Enfin, il y a encore beaucoup, évidemment, ça reste tenu. Je dis pas que vous avez des étagères et des étagères, mais malgré tout, il y a peut-être un héritage de cette période-là. Et que ben, maintenant, il faut construire aussi l'héritage d'après, des générations plus jeunes qui n'ont pas le traumatisme, en fait. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet endroit-là de génération? En tout cas, est-ce que vous êtes tous à peu près de la même génération déjà dans les 8
plus
collectifs?
Ou moins. Plus oui, ou moins. On est plus ou moins de la même génération.
Okay.
Je pense qu'il y a 15 ans d'écart maximum entre le plus vieux et le plus jeune. 10.
Ouais, en même temps, c'est intéressant parce que je pense que par rapport à l'épidémie, on ne se situe pas forcément tous au même endroit. Et c'est vrai que Julien, qui travaille justement la question de la séropositivité dans son texte et qui est peut-être un petit peu plus âgé que nous, il y a déjà peut-être ouais, un entre-deux générationnel, en fait, entre lui et les auteurs dont tu parles, quoi.
Mmh. Oui, il fait le pont, je pense. C'est le plus âgé du collectif, Julien Ribeiro.
Ok.
Et oui, c'est celui qui aborde frontalement la question des concernés. Mmh.
Mais c'est vrai que... Bah oui, déjà, l'épidémie du sida ou VIH, c'est pas terminé. Et je pense qu'elle a tous impacté nos vies de différentes manières, mais pas du tout de la façon dont l'ont vécu les militants et les auteurs des années 90. Et c'est vrai que peut-être il y a eu un moment de visibilité à ce moment-là, et c'est un peu comme si on avait eu l'impression, et peut-être qu'on nous l'a aussi renvoyé souvent, que la question gay était un peu, s'était terminée à ce moment-là, quoi. Et voilà, et nous on arrive une génération après, et en effet on n'hérite pas de la violence de cette épidémie-là, mais on a aussi des vies avec lesquelles on doit composer, des formes de violence qui traversent nos vies et qui serait pertinent, enfin sur lesquels il serait pertinent de produire des outils théoriques.
Mmh. Oui, et j'en profite pour rebondir sur un travail que tu as fait en 2020, si je ne me trompe pas, autour du hashtag MeTooGay. Et c'est vrai que cette arrivée de hashtag, il a été assez fou, j'ai envie de dire, assez virulent même. C'est-à-dire que c'était de se rendre compte qu'en fait, dans votre milieu, donc il y avait des violences intracommunautaire, et donc que ce hashtag était utilisé aussi pour dire non mais en fait il se passe des choses comme il se passe des choses dans le MeToo féministe ou tous les autres MeToo qui sont nés au fur et à mesure de chaque endroit qui avait besoin de cette visibilité là mais ce qui fait que enfin votre livre, au final, comme j'en parlais plus tôt sur les réseaux, moi je l'ai ressenti vraiment comme une très grande déclaration d'amour à votre communauté. Enfin, il y a quelque chose aussi de dire J'en suis fière, j'en suis, j'y reste, notre collectif ici à Lille, mais il y a aussi quelque chose aussi de dire la beauté, en fait, de tout ce qui peut s'y passer, des liens, on a entendu votre solidarité, etc. Mais vous dénoncez aussi beaucoup, et chacun, dans chaque écrit, il y a un endroit qui dit la violence des gens qui vous entourent, en fait, de ce que... Et ça demande, je pense, un certain courage que d'assumer aussi de dire, c'est pas parce qu'en effet on a vécu cet endroit d'extrême violence qui ont été les épidémies VIH/SIDA, que en fait on est tous hyper joyeux et heureux et bienveillants les uns les unes envers les autres. En fait, il y a un souci systémique aussi de violence en fait dans vos communautés, quoi.
Juste pour rebondir sur la question de l'épidémie VIH/SIDA et la dimension générationnelle, en fait, je pense que c'est... Enfin, je suis un peu une drama queen, mais justement, en grandissant avec ces références-là, j'avais l'impression qu'être gay, c'était mourir. Mmh. Et écrire ce texte-là m'a aussi permis de me rendre compte que c'était pas le cas nécessairement et que l'épidémie n'est pas terminée, évidemment. Mais c'est important aussi de proposer d'autres récits. Et en fait, j'ai grandi avec ces récits marqués par le VIH/SIDA de manière viscérale en imaginant que être gay c'était mourir, et même les textes qui sortent, les rares textes qui sortent sur les questions homosexuelles aujourd'hui en France, c'est beaucoup de textes très très violents en fait, ou de trajectoires sociales qui sont difficiles, violentes, pleines de violence. Et je trouve que on propose d'autres récits, c'est pas des contre-récits, c'est des récits complémentaires, attention. Et pour en revenir à la dernière question par rapport à l'amour de notre communauté, mais aussi le fait qu'on pouvait calling in, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que effectivement, chaque texte fait certains travers de notre communauté et pas que notre communauté. Et c'est important de le faire, et je pense qu'on le fait par amour, en fait. C'est out of love qu'on fait ça. Parce que pointer des dysfonctionnements, éclairer des zones d'ombre, des angles morts comme ça, c'est aussi dire, regardez ce qui dysfonctionne et regardez ce qu'on peut changer. Voici des pistes de solutions. Voici aussi ce qu'on en pense. Et on fait ça, non pas pour dire, c'est pas de l'auto-victimisation, c'est plutôt justement pour qu'on corrige le tir, en fait, pour qu'on puisse se réparer ensemble.
Et dire on n'est pas la même personne, parce que du coup, comme les PD produisent pas grand-chose, ou les gays, les homos, et que globalement, il y a des figures médiatiques très connues, ma grand-mère, elle va dire Laurent Ruquier, et elle l'adore, elle me dit oh, « ils nous l'ont piqué », enfin, en blaguant, parce qu'elle est pas homophobe, mais elle aimerait qu'il soit... Enfin, elle ne comprend pas pourquoi il est gay, elle le trouve génial. Du coup, les gens connaissent a priori tous des gays, depuis le débat du mariage pour tous, les gays et les lesbiennes ont été exposés dans les médias mainstream, alors qu'avant 2013, c'était beaucoup moins le cas. Maintenant, tous les médias mainstream parlent des questions LGBT. Des journalistes se sont spécialisés, etc. Donc maintenant, tout le monde connaît un ou deux gays, peut-être une ou deux lesbiennes dans sa vie. Mais du coup, assimile ce gay à la communauté. Nous, du coup, dans ce livre, ce qu'on a voulu faire, c'est montrer qu'en fait, parmi nous, il y a des embrouilles, qu'il y a des riches, qu'il y a des pauvres, qu'il y a des noirs, qu'il y a des blancs, qu'il y a des personnes racisées, et que en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes communautés à l'intérieur, qu'il y en a des centaines qui coexistent.
Moi, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur MeTooGay et nuancer un peu. Mm-hmm. C'est que moi, mon travail sur la question, il est antérieur de quelques mois au hashtag et à la... Enfin, il y a eu plusieurs vagues, quoi, mais je pense que c'est celle à laquelle tu fais référence. Et le point de départ de ma réflexion, c'est pas tant les violences intracommunautaires, même si ça fait partie de mon travail, mais le point de départ, c'est plutôt les violences sexuelles vécues dans l'enfance et violences intrafamiliales. Donc, j'emploie pas le mot d'inceste à l'époque dans mon texte, mais c'est clairement de ça dont il est question, qui est une question qui me travaillait beaucoup, dont j'avais beaucoup discuté et travaillé avec un militant qui est là-bas, qui s'appelle Jean-Baptiste. Bon, Jean. Et à qui ce papier doit beaucoup. Et voilà. Et du coup, ça me perturbe toujours un peu quand on veut réduire ce phénomène à des violences intracommunautaires, puisque l'inceste n'est pas une violence intracommunautaire, elle est intrafamiliale, elle est patriarcale, mais ce n'est pas de la violence entre gays. Je pense que c'est important de le préciser. Même si, une fois qu'on a ouvert cette porte-là, il me paraissait intéressant aussi de dire que les gays adultes vont vivre de la violence sexuelle, d'ailleurs pas que de la part de gays parfois, les choses sont un peu plus complexes que ça, mais aussi entre gays. Et je pense que la position gay, elle est intéressante pour ça. Et alors c'est ce qui fait que ça... Peut-être parfois c'est plus compliqué parce que... Je pense que la position gay rend plus visible le fait que nous, on subit et reproduit de la violence, mais finalement c'est le cas de toutes les communautés en fait. Franchement, je pense que aucune communauté n'échappe à ça. Mais finalement, avec le recul, je me dis que c'est plutôt une chance, en fait, c'est quelque chose d'assez productif de pouvoir interroger comment la violence aussi traverse nos communautés, comment des rapports de domination existent à l'intérieur de l'identité gay. Et je me souviens que justement, après mon papier sur MeTooGay, j'ai reçu des messages, parfois même de lesbiennes, qui m'ont dit « ça m'a fait énormément de bien de lire ça et d'être capable de penser que la violence existe aussi entre nous et qu'on ne s'extrait pas de la conversation ». Que c'est pas juste nous on subit et les autres nous dominent, mais qu'en fait parfois les choses sont plus complexes, et je me dis que peut-être là on peut aussi produire des outils qui vont être utiles à la société au sens large. Et pour moi la pédérité c'est aussi ça, ça veut dire à la fois refaire du commun mais profiter de ce commun pour si on veut être solidaire et si on veut s'aimer, ça veut aussi dire devoir travailler les endroits de violence et les rapports de domination entre nous. Mais pour ça, il faut aussi des espaces, quoi. On peut pas le faire, je pense, hors sol. Enfin, moi, j'ai l'impression que Internet, Twitter, ça marche et en même temps, ça a ses limites. Et peut-être qu'il faut créer d'autres espaces pour pouvoir travailler tout ça.
Oui, ça, c'est un des endroits de ton article, enfin, du texte que tu as écrit. Tu le termines un peu là-dessus, d'ailleurs, en disant, mais en fait, il faut qu'on puisse avoir nos espaces pour discuter de tout ça et évoluer, enfin, en tout cas, mettre sur la table tous ces sujets, quoi.
Bah nous, on voudrait des espaces de non-mixité gay ou PD. On en parle beaucoup entre amis, mais en fait, il faut les créer. Donc, il faut aussi se motiver, créer des endroits. Là, tout à l'heure, on parlait avec des personnes militantes d'ici qui le font, qui essayent. Enfin, il faut y aller, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas à part les bars et les boîtes, en fait, et les lieux de sociabilité où tous les PD ne vont pas. Donc il y a des gens qui n'ont pas du tout d'espace, quoi. Moi j'y vais beaucoup, donc j'ai pas de problème avec ça. J'ai beaucoup d'espace de non-mixité gay, mais c'est que pour boire des verres. Enfin.
Oui, ce qui est pas vraiment, enfin, c'est de la non-mixité de fait, mais qui est pas vraiment une non-mixité politique ou de soins. Et moi je vois que cette idée commence à faire son chemin et je vois éclore plein d'initiatives. Là à Lille justement il y a des gens ici qui font partie de la théière. Donc il y a des comme ça commence à naître depuis quelques années, mais c'était pas une idée acquise. Il y a quelques années, si on évoquait l'idée de non-mixité PD, on se faisait copieusement insulter. Et je suis content de voir qu'on commence à pouvoir défendre le fait que nous aussi, en fait, on a des choses à se dire entre nous, qu'on a des vécus spécifiques et donc besoin de discussions spécifiques et d'un cadre spécifique pour les discuter.
Mes premières découvertes de la non-mixité à l'âge de 20 ans, c'était parce qu'on m'a dit « Ah ben du coup, ça va être une réunion non-mixte féministe, donc tu viens pas. » Donc mes meilleures copines, quand je suis étudiant, qui me disent ça, mon premier mouvement, c'était de dire « Attendez, mais je suis tout le temps avec vous, gardez-moi avec vous, qu'est-ce que vous foutez ?» Et moi, j'ai pas d'espace à côté. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que on pense que c'est une bonne idée d'amener ce sujet.
Bien sûr. On est pour. On va aller plus en profondeur sur chacun de vos textes, c'est le moment. Et on va faire dans l'ordre, puisque la vie est bien faite. Anthony, tu es le premier à être publié dans ce livre, et donc nous allons en parler. Ce texte, il s'appelle « Peau noire, masque arc-en-ciel ». Donc, en clin d'œil... énorme clin d'œil à François Fanon pour Peau noire, masque blanc. Donc déjà, super. Enfin, moi, j'ai trouvé cet endroit-là de langue vraiment très joli. Mais à partir du moment en fait, où on rentre dans ton texte, il y a quelque chose, comme tu le disais précédemment, en fait, tu nous exprimes un endroit de malaise, de ne pas savoir comment... te nommer, en fait, au final, d'être à un endroit très trouble de qui tu peux être en toi-même, face aux autres, face à la police, t'es à plein d'endroits, en fait, comme on pourrait dire, d'intersectionnalité dans ce texte. Et on en parlait là juste avant avec ce principe, en fait, de penser qu'une communauté, en fait, qui vit une oppression, de ce fait est plus capable d'opprimer derrière, mais qui au final, même tu le dis, hein, dans les hommes gays peuvent être racistes et l'ont été beaucoup dans ton entourage aussi, enfin en tout cas pas dans ton entourage proche je veux dire, mais en tout cas autour de toi. Et cet endroit-là d'écriture qu'on sent très intime, tu dis hein, je suis noire et queer, ça demande en fait de penser ça, d'avoir un recul quand même assez important sur qui tu as été, comment tu es devenue et qui tu es maintenant. Enfin c'est un papier qui dit beaucoup de toi je trouve.
Oui, en effet. Après, oui, je suis très perdue. Mais c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire, en fait, parce que je suis journaliste et je barre souvent de moi-même, non par narcissisme, mais plutôt parce que c'est important de situer son point de vue et son analyse, sa critique. Et c'est ce que je fais à travers le texte aussi pour montrer que c'est OK, en fait, de se chercher encore et que l'identité est quelque chose de fluide. Je dis, j'écris que je suis noire et queer, mais en fait, j'aimerais écrire que je suis noire queer, enfin, en un seul mot, sans avoir besoin de trait d'union. C'est ce que fait très bien, d'ailleurs, Douce Dibondeau dans son recueil de poésie, Métacure. Et, ce que je trouve magnifique aussi à travers, ces questions, c'est que ça permet aussi de montrer que l'identité, on la façonne au quotidien, en fait. On n'a jamais fini de la construire et de la déconstruire. Mais ce que je voudrais dire, enfin, c'est que, Ça a été très thérapeutique, en fait, d'écrire ce livre-là, parce que, justement, j'ai réfléchi à tout ça en écrivant et à travers le collectif, et en lisant leurs textes aussi, parce qu'on s'est découvert mutuellement une fois que chacun avait achevé son texte. Et j'ai réalisé à ce moment-là que j'avais beaucoup avancé entre le début de l'écriture et, la découverte des textes des autres. Et en faisant la promotion de l'ouvrage encore plus, en fait, parce qu'à chaque fois, on fait des tables rondes dans des librairies géniales comme la tienne. Soazic, merci beaucoup. Et justement, ça me permet d'avancer encore sur la question, parce qu'en fait, elle n'est jamais terminée, parce qu'on est une communauté mouvante et on est plusieurs communautés. D'ailleurs, c'est pas un bloc monolithique qui penserait d'une seule manière unique. Au contraire, c'est assez explosif, en fait, et c'est ça qui est merveilleux.
Mais tu vas articuler des pensées. Enfin, moi, j'ai été assez marquée par ton éprouvé. En fait, quand tu arrives à un endroit, en fait, de te dire, tu vois dans le regard, en fait, de certaines personnes qui peut y avoir. Donc, tu es un jeune homme noir. Une sorte de crainte qui arrive, quelque chose qu'on voit en fait dans les médias, dans les espaces qu'on nous raconte, la façon dont on nous raconte en fait les jeunes hommes noirs en France typiquement, hein, donc il y a une peur qui arrive, et puis tu dis le fameux poignet cassé, tout de suite, hop, il y a une douceur qui arrive, non, en fait il peut pas faire de mal. Il n'est pas de cet endroit-là, en fait. Et ça, à lire, il y a quelque chose qui raccroche, évidemment, à beaucoup d'éprouvés des corps noirs en France, du racisme ambiant et de tout ce qui peut faire être tricoté, en fait, autour de ton identité, avant même que tu parles, en fait, avant même que tu sois toi. En fait, il y a déjà tout un schéma qui se crée autour de toi. Cet endroit-là, je l'ai trouvé vraiment fort puissant à lire.
Oui, effectivement. Enfin, dans l'espace public, en fait, on a énormément de récits qui nous précèdent, qui nous définissent, qui nous assignent et qui nous oppressent, finalement. Je dis nous, mais je voudrais parler de moi uniquement, histoire de rien trahir. Mais en tout cas, c'est même si c'est pas vrai, même si la mamie que je vais croiser qui resserre son sac à main contre elle en me voyant, puis se relâche un petit peu, même si c'est pas par racisme qu'elle fait ça, qui peut être inconscient d'ailleurs, ce racisme, en fait, ce sera pas, peut-être pas cette mamie-là, mais en fait, c'est les 50 autres précédentes et toutes les autres micro-agressions que j'ai pu vivre au travail, dans l'accès au logement, etc. Et voilà, en fait, ça m'a déjà matrixé, en fait. Mais c'est aussi dans d'autres espaces, en fait, et je pense que ça vient pas de douceur. C'est intéressant. Je cherchais un terme quand tu l'as dit. Un autre terme. Et je n'ai pas trouvé, mais en fait, c'est pas de la douceur. C'est qu'en fait, elle me voit menaçant autrement. Et qu'elle a moins peur pour son intégrité physique directe. Mais elle se dit juste que je suis un dépravé. Enfin, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, mais que je suis un dépravé et qu'il va pas voler son sac, mais qu'il va faire autre chose, quoi. À l'ordre si c'est hétéropatriarcal. Je suis dissident, mais autrement. Et je trouve pas ça mieux, en fait. Je me sens pas soulagée quand elle se relâche un petit peu parce qu'elle a compris que j'étais queer.
Oui, mais là, tu viens mettre le bon mot sur ça, c'est que queer... En fait, là, toi, ton utilisation du mot queer, il est à un endroit politiquement parfois oublié, mais il y a quelque chose d'utiliser ce mot comme, à l'époque, en fait, queer, c'était pour dire ça, c'était pour dire l'étrange, le déviant, etc. Et qu'il y a une... Tout comme... Il y a peut-être une dépolitisation, je le savais, dépolitisation du terme PD, ben toi tu proposes, c'est ça, que queer aussi parfois puisse l'être.
Oui, d'ailleurs, je l'ai écrit noir sur blanc, il me semble, ouais. Je fais référence à un micro-trottoir d'un youtubeur français très très regardé, qui interroge des gens dans la rue sur leur sexualité leurs amusements au lit. Et il y a une femme qu'il croise, qui se définit comme cis-hétéro, mais queer. Et il lui demande « Pourquoi tu dis que t'es queer ?» Et elle répond « Ah, mais parce que j'ai l'esprit ouvert et j'adore m'amuser. » Et pour elle, c'est ça que ça veut dire queer aujourd'hui. Et je me dis qu'il y a un problème quelque part, qu'on ne sait plus ce que ça veut dire et qu'on a oublié que ça voulait dire déviant, en fait. Et que c'est l'inverse de straight, les gens bien comme il faut, qui sont bien droits. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'on a besoin de mots qui repolitisent tout ça en contexte français et que PD, c'est très, très français, quoi. Et c'est un des sous-titres que j'avais proposé ou une alternative au titre PD. Et je voulais dire en contexte français parce que ça permettait de bien situer les choses, mais c'était pas très catchy sur les tables de librairie, donc on m'a dit non. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le texte de Jacques Boilhem, en fait, l'importance de recontextualiser et de dire d'où est-ce que l'on parle. Et en tant que personne racisée du collectif, je vais pas parler à sa place, mais personnellement, j'ai failli effectivement titrer mon texte Macoumé, parce qu'en fait, il y a quelque chose de très spécifique, en fait, dans les masculinités noires non hétérosexuelles, qui est étrange, enfin, qui est difficile à exprimer, qui est de l'ordre de l'indicible. Moi, j'ai toujours du mal à dire, ouais, je suis noire et queer, et pourtant, c'est la chose la plus simple que j'arrive à formuler à propos de moi. Mais il nous faudrait des mots nouveaux, en fait. Ou arrêter de se définir, mais ça, c'est pas pour tout de suite.
En tout cas, c'est pas là où vous êtes allé avec ces textes-là, d'arrêter de vous définir. Parce que je vais rebondir sur donc straight, que tu viens de dire, pour passer à toi, Camille, puisque, il me semble, oui, c'est ça, que ton titre, c'est « On ne naît pas PD, on le devient ».
Alors, cette punchline...
elle est géniale.
apparaît dans le texte, mais non, mon texte s'appelle « PD, point médian, S, dans la peau ». Et le point médian, pour dire comment on glisse du singulier au pluriel.
Si tu veux bien nous mettre sur cette voie-là, parce que je trouve que l'idée est très, très, très chouette.
Non, oui, moi, le texte, j'avais envie d'interroger mon propre rapport au mot PD et comment il avait changé à travers ma vie, comment je l'avais fui, comment je l'avais remplacé par queer, comment après, queer, pareil, m'avait un peu peut-être déçu, et comment j'étais revenu à PD et qui était redevenu très central depuis quelques années dans mes productions et mon militantisme. Et en travaillant... on n'est pas PD, on le devient, c'était comment on est constitué PD par le langage. À ce moment-là du texte, cette citation, elle est assez proche d'un moment où je parle de Didier Ribon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire habiter le mot PD? Qu'est-ce que ça implique en termes de vécu spécifique? En travaillant sur la question des violences sexuelles et notamment sur la question de l'inceste et comment elle s'inscrit sur les corps gays et de manière assez frappante, ça me laissait penser que il y avait quelque chose de l'ordre de la trahison chez les enfants gays, qui était déjà perçu dès l'enfance, à un moment où on ne se nomme pas PD, mais on est déjà perçu comme PD. Et donc je fais des allers-retours, je rembobine en fait, je dis « Ah tiens, on me nomme PD, mais avant de me nommer PD, on m'a déjà peut-être perçu comme PD et on m'a fait certaines formes de violence. » Et voilà, et peut-être que tout cela a à voir avec le genre, avec la place qu'on occupe au sein du patriarcat. Et Me Too Gay m'avait beaucoup aidé à faire émerger cette question-là, la question du rapport des corps gays dans l'espace public aussi, pourquoi les corps gays sont victimes, avec les femmes trans, de violences très spécifiques, très brutales dans l'espace public, pourquoi il y a autant de meurtres d'hommes gays en France. Et voilà pourquoi les gays et les femmes trans, encore une fois, sont si souvent pris pour cible jusqu'à être tués de manière très violente. Sur cette question de l'idée du déclassement, en fait, que devenir PD, c'était aussi déchoir de son statut d'homme. Et ça me paraissait important de convoquer Wittig, puisque je pense qu'avec un renouveau, une nouvelle vague féministe de ces dernières années, on a tendance à assigner les gays à des hommes cis. Et moi, je trouve que c'est pertinent au sens où, oui, matériellement, les gays cis sont perçus comme des hommes cis. Et en même temps, je trouve que produire une catégorie homogène d'hommes cis qui mettrait équivalent les hommes hétéros et les hommes homosexuels, ça me paraît passer beaucoup de choses sous silence en termes de violence.
On n'a rien à voir avec eux.
Bah, parfois si, parfois non, mais en tout cas, il y a beaucoup de violences qui ciblent les corps gays, qui laissent penser qu'ils ne sont pas perçus pleinement comme des hommes et qu'on les traite de cette manière-là. Et donc voilà, donc j'avais envie de... Moi, j'avais lu Wittig quelques années avant, j'avais vécu avec Clément Salazar qui avait beaucoup travaillé sur Wittig, donc forcément, c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé. Et voilà, ça me paraissait intéressant d'aller aussi déjouer cette idée que les gays ne sont pas des hommes et dans le regard de nos oppresseurs et dans la manière dont on se construit. Moi, l'identité homme, elle m'est assez étrangère et plus le temps passe, moins elle l'est. C'est quelque chose qui, en plus, n'est pas tout à fait nouveau puisque dès les années 70, il y a beaucoup de productions, en fait, qui... Alors, à l'époque, on n'emploie pas le mot gender, mais qui, en tout cas, genre, en français, c'est vraiment antérieur à l'émergence du mouvement queer. Mais dès les années 70, on s'interroge sur la folle, la fairy, en anglais, le Harry Hay, qui théorise ce qui vont devenir les radical fairies. Il dit, en fait, il faut que les gays refusent ou embrassent le fait qu'ils ne sont pas des hommes et deviennent des fairies, qui deviennent des tapettes, des sissies, des folles. Et peut-être c'est ça, notre genre à nous. Et ça, c'est des idées qui me parlent beaucoup et qui se retrouvent dans mon texte, qui est un peu un glissement du jeu vers le nous et aussi un glissement du masculin vers le féminin, avec un jeu comme ça, d'une sorte de dérive.
Bah, je pense que dans ton texte, tu à la fois théorises de manière très concrète donc, toutes ces questions-là, parce que, qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer, mais franchement, les gays, on en parlait tout à l'heure, entre nous, il y a beaucoup de disputes. Souvent, quand ils se défendent, ils disent, moi, je suis un certain gay. Hein. Moi, je suis pas une folle comme les autres. Enfin, disons qu'il y a eu beaucoup de figures médiatiques, encore une fois, qui ont ramassé pour tout le monde parce qu'ils étaient trop féminins. On n'arrête pas de dire, oui, mais à la télé, ils prennent que des gens qui sont pas des vrais, enfin, qui sont pas les gays comme tout le monde, quoi. Sauf qu'en fait, ces mecs-là, quand ils se défendent d'être des hommes, on les comprend, mais aucun homme hétéro cis ne les considère dans leur... dans leur communauté d'hommes cis, enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est des autres. Et donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un combat à mener là-dessus pour faire comprendre les spécificités qui sont les nôtres, à commencer par cette peur perpétuelle de l'agression que n'ont pas les hommes cis qui les provoquent.
Mais c'est ce que tu dis sur le PD est un genre en soi. En fait, ça résume tout, en fait.
Oui, PD est un genre au sens où c'est aussi une position spécifique dans la matrice du genre, dans le patriarcat, qui mérite d'être, j'ai dit trois fois spécifique tout à l'heure, je l'aurais dit encore une fois, mais un genre en soi, ça veut dire qu'on peut penser en tant que tel et pas réduire à homme, parce que ça me paraît pas très intéressant. Et moi, je comprends pourquoi beaucoup de gays ont voulu et veulent encore s'approprier le mot homme. Je veux dire, quand avant, on nous qualifiait d'invertis, on nous disait « vous êtes des femmes coincées dans des hommes d'hommes », il a fallu peut-être affirmer que c'était pas vrai. Je pense qu'au temps du sida, il y avait peut-être un besoin de réinvestir certaines formes de masculinité. Et chez ACT UP, il y avait des PD assez virils, comme ça, qui ont aussi eu envie de changer l'image qu'on avait des corps gays. Il y avait des folles chez ACT UP, mais il y avait aussi, je sais plus comment on les appelle, mais des...
Des musclores.
Ouais, des musclores. Il y a ce mème assez drôle avec un mec qui a une batte de baseball et qui dit « He called me a faggot, I called him an ambulance ». Avec, voilà, de dire « Bah, en fait, nous aussi, on peut vous péter la gueule ». Et je pense qu'il y a des époques où ça a été assez stratégique de faire ça, et ça peut l'être encore, de se réapproprier la violence en tant que gay. Mais peut-être qu'on peut, aujourd'hui, et je pense que le mouvement queer nous ramène à ces questions du genre, et se dire « Tiens, quelle place on occupe là-dedans ?» Et c'est aussi dénaturaliser l'identité homme, puisqu'elle est finalement assez relative. Et c'est aussi une incantation. Moi, je dis c'est un constat au sens politique, parce que les violences qui nous visent patriarcales laissent penser qu'on a un statut plutôt déchu. Mais c'est aussi une incantation, une invitation à se désolidariser de la masculinité, à peut-être interroger le masculin en soi et essayer de le mettre à distance, sans le stigmatiser, mais en tout cas, voilà, aussi de se positionner en complicité, de se penser en termes en complicité avec le féminisme.
Surtout que, je sais, enfin, dans mon entourage gay, qui est quand même, enfin, large, si je prends tous les gays que j'ai croisés, je n'en connais pas beaucoup qui aient des complicités avec les hommes hétéros, en fait. Et du coup, il y a quelque chose d'un manque de... souvent, on est amis avec des meufs, en fait, que ce soit des personnes hétéras, que ce soit des personnes lesbiennes, des personnes trans. C'est très rare que des gays aient des bandes de potes hétéros. Ça n'existe pas. Donc, on est un peu laissé seul, en fait. Enfin, mais... voilà. Il y a ce truc... En fait, à part quand on doit aller au travail ou quand on doit voir les membres de sa famille, il n'y a aucun endroit où on a vraiment des rapports approfondis avec des hommes hétéros.
Et si on regarde les fonctions et les rôles qu'ont pris les gays historiquement dans la société, en fait, c'est beaucoup des métiers de soins. Moi, je connais énormément de gays qui sont profs, qui sont coiffeurs. Bon, c'est un cliché, mais il est en partie vrai. Qui sont décorateurs, qui font de la danse, qui font de l'art.
Qui sont infirmiers.
Qui sont infirmiers, enfin, ouais. Et ça apparaît, c'est assez drôle parce que ça apparaît dans les Faggots and Their Friends, donc ce texte de 77 ou 78 où il parle justement de ça. Il dit les faggots rendent le monde beau et ils éduquent les enfants. Et donc déjà il y a cette intuition que les rôles qu'ont choisi les gays sont pas tellement gagner plein d'argent et faire la guerre, mais en fait plutôt faire du soin et rendre le monde joli. Et
je me à part ça, Olivier Dussopt, bien sûr.
Bon, évidemment, Adrien, tu sais que je vais parler de ton texte maintenant. Bah, tout simplement, c'est Michaël. Tu nous fais un portrait extrêmement touchant, mais parce qu'on sent en fait toute la sincérité et l'authenticité de tes propos. En fait, il y a un truc où tu nous parles de Michaël, donc ton cousin gay. Est-ce que tu peux nous présenter Michaël ? Ce sera beaucoup plus beau que dans mes mots, je pense.
Alors, merci. Merci pour ton introduction. Michaël, il a un an de plus que moi. Donc, c'est le fils de ma tati Myriam, la sœur de ma mère. Et Myriam l'a eu, elle avait 19 ans. Donc, moi, ma famille, c'était un milieu populaire où Myriam, à l'époque, était dans les ménages, dans le soin. Elle a beaucoup travaillé en caisse aussi, sa mère. Et elle a eu Michaël à 19 ans, moi ma mère m'a eu plus tard, mais on a grandi ensemble. Et à l'âge de 13 ans, 14 ans, Michaël a fait son coming out à toute la famille en disant qu'il était amoureux de Robbie Williams, le chanteur. Ça s'est assez bien passé. Les grands-parents, cathos de milieu populaire, où en fait on suit un peu ça par habitude, en fait, sans revendication réelle. Donc en fait, ils ont... Et puis voilà, le message du Christ, c'est d'accepter son prochain. Donc du coup, ils ont accepté mon cousin, qui était un peu trimballé entre chez moi, son père, sa mère, mes grands-parents. Et Michaël n'a pas fait d'études, contrairement à moi. Il y a eu un moment où on était à la fac de Grenoble tous les deux, et où moi, je prenais le chemin du bon élève, et lui n'aimait pas les cours, et ça ne lui parlait pas. Et en fait, il a arrêté de travailler pendant plusieurs années, il a arrêté ses études, et puis il ne travaillait pas. Et maintenant, il est ouvrier. Et donc, j'ai voulu raconter l'histoire de Michaël, puisque déjà, c'est mon meilleur ami. Je pense qu'on a une relation... J'ai tellement de chance d'avoir vu cette personne. Il y a parfois des lesbiennes ou des gays qui ont des frères ou des sœurs gays ou lesbiennes. Moi, donc, c'est ce cousin très proche. On a été très, 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 très proches à s'appeler 2 heures par jour. Même quand j'étais à Paris en train de faire mes études de lettres et que lui, par exemple, ne travaillait pas. Maintenant, nos vies sont un peu plus... lointaine, parce qu'il m'a aussi fait la demande un jour, ça j'en parle dans le texte, de plus forcément lui raconter toute ma vie dans les médias, parce que en fait ça l'intéressait plus. Parce que lui, sa vie c'était pas de savoir quel scandale allait faire telle personnalité odieuse avec son pognon, ses voyages, ses privilèges, et qu'en fait, il me l'a pas dit de cette manière, parce que c'est pas du tout quelqu'un de vindicatif. C'est quelqu'un de très doux, mais au bout d'un moment... les parcours sociaux donnent des places aux gens, et c'est ça aussi que je voulais raconter. Mais surtout lui donner une place dans le collectif, parce que je voulais pas qu'on ait un livre où il y ait que des personnes comme nous qui avons la chance de faire des métiers qui nous intéressent.
Oui, et cette question-là du métier, en fait, elle va être hyper importante, parce que tu vas mettre en exergue le fait que qui est-ce qu'on connaît, en fait, quel homme gay on peut citer, c'est tous ceux qui sont dans l'art, qui sont à la télé, qui, enfin, en tout cas qui ont des métiers avec des représentations quand même, et que on n'imaginerait pas 5 secondes en fait qui est toute une autre partie de la population gay qui fasse juste des métiers pour alimentaires ou qui se enfin voilà qui on n'a même pas à nommer en fait ces métiers-là qui font juste d'autres métiers. Mmh. Et ça, c'est hyper important dans les questions de classe, on se le disait un peu avant, de les raccrocher à nos luttes. C'est quand même des endroits qu'il ne faut pas oublier, quoi.
Michaël ne met jamais les pieds dans une librairie. Je suis sûr que s'il était accompagné, s'il était là ce soir et qu'il te rencontrait, qu'ils mettaient des visages sur les gens qui font vivre le livre, ils te trouveraient sympathique et ils se sentiraient accueillis et donc peut-être qu'il aurait envie de lire. Mais lui, sinon, il ne lit pas. Il n'a pas envie de lire un livre. Ça lui fait mal à la tête. Il a lu ça parce que je lui ai demandé de le lire avant que ce soit publié. Évidemment, il est beaucoup interviewé dedans, donc je voulais qu'il valide le tout. Mais même ça, c'était pénible. Enfin, non, franchement, en vrai, non. Mais c'est pas une activité qu'il apprécie. Donc, ouais, il y a tout. Enfin, quand on produit dans les médias, dans les livres, dans la culture, en fait, on a tendance à, et tu le disais tout à l'heure sur les questions de féminisme, où les questions de classe sont peut-être de plus en plus prises en compte, bah, c'est un écueil, parce qu'en fait, on a un endroit de production de privilèges, du coup, parce qu'on écrit, on est publié. Et donc, c'est très facile d'oublier qu'on n'est pas sur un petit îlot déconnecté du reste du monde, quoi. Et moi, je... Enfin, de toute façon, ça a été évident que j'allais parler de Mickaël quand on m'a dit un livre sur des PD. Quel est votre rapport, vous ? Bah, nous, on a grandi ensemble, on a les mêmes références, on est fans des mêmes chanteuses avec le même tatouage à l'effigie de Mylène Farmer et Madonna. Enfin, on a eu la même vie jusqu'à ce que les diplômes, en fait, nous placent dans deux endroits éloignés.
Oui, ce qui est aussi intéressant, alors tu fais le geste de deux lignes qui sont en train de se séparer, enfin qui s'éloignent, en tout cas qui ne se séparent pas mais qui s'éloignent, mais il y a la question de l'expression du genre aussi qui va transparaître dans ton texte, de dire, bah, en fait, d'une certaine manière, ton univers te permet peut-être d'être plus visible en fait dans ton identité gay, on va dire ça comme ça, tandis que lui, et j'ai trouvé ce passage hyper marquant où il te dit, mais moi au travail, en fait, c'est pas mon endroit, en fait, que de montrer que je le suis, et c'est très compliqué parce qu'en fait, de quoi on parle au travail ? Eh ben, on parle de sexualité tout le temps, et moi, en fait, j'ai pas forcément envie d'aller dans cette discussion-là, donc je parle de quoi ? Enfin, tout cet endroit-là à tricoter, il est vraiment très intéressant.
Bah, dans son travail là, dans lequel il est embauché, qui est une grande usine de fabrication de seringues, il a mis 2 ans avant de dire qu'il était en couple avec Patrice, qui a 57 ans, et qui est, en fait, ils vivent ensemble. Et il a mis 2 ans avant de le dire à une jeune employée de 20 ans qui avait montré qu'elle était gay-friendly. Donc là, il s'est dit, ah bah, elle, je peux lui parler. C'était donc toute jeune, quoi. Toute jeune salariée. Et effectivement, je suis très content d'avoir pu écrire ça dans le livre parce qu'on a l'impression parfois que faire son coming out, c'est presque rien, c'est presque capitaliste comme démarche de dire, en fait, gay, je suis quelque chose. Mais pour Mickaël, jamais de la vie, il le dit dans le livre, mais jamais de la vie, il dira PD au travail, alors qu'il entend tapette, il entend PD. Même si, franchement, il dit aussi que ça se passe très bien avec ses collègues et qu'il n'y a pas d'homophobie à son encontre dans ce travail-là. Par contre, s'il n'a pas travaillé pendant très longtemps, pendant 4-5 ans, il était au minima sociaux et il ne voulait pas travailler. Donc même toute ma famille lui disait « Pourquoi tu ne travailles pas ? Il faut y aller, il faut y retourner. » C'est parce qu'une des seules options qui s'offrait à lui, c'était l'intérim. Et qu'en fait, être en intérim, ça veut dire tous les jours pouvoir être appelé pour une mission différente avec des hommes différents. Et en fait, ça voulait dire que chaque jour, tu tombais potentiellement sur un homophobe. Et moi, c'est ça que je comprenais de sa... Et donc, il dit « Bah toi, t'as de la chance, tu fréquentes des gouinasses et des pédales et des meufs sympas dans les médias. » Voilà.
Mais oui. Et c'est un peu à ce moment-là aussi qu'il dit, j'ai l'impression, en fait, je veux plus trop savoir. Parce que il y a peut-être aussi, enfin, c'est un certain décalage qui arrive de fait, en fait. Mais tu dis, toi, je cherche des traces de Mickaël dans la culture. Et c'est vrai que quand on se pose ces questions-là, quand on regarde, en fait, bah oui, tu disais Madonna, Mylène Farmer, ensuite je crois que c'est dans ton texte où tu parles Michou, Stevie. En fait, on a comme ça des icônes. Alors pour Madonna et Mylène Farmer, c'est vraiment des icônes gays. Pour Michou, Stevie, on est sur en fait, des incarnations d'une certaine façon d'être gay à la télé. En fait, beaucoup plus populaire, mais qui représente qui ? En fait, mais c'est tout ce qu'on a dit déjà depuis le début, c'est qu'on a une fâcheuse tendance à quand même stigmatiser et à faire des portraits un petit peu robots, comme ça, de qui devrait être, en fait, les gays. Oui. Mais Mickaël, en fait, tu le trouves pas forcément, en fait, autour de toi ?
Non, enfin, j'ai regardé un peu dans la production universitaire, dans les films, dans les bouquins, et c'est vrai que bah, un des seuls cinéastes, par exemple, où il peut y avoir des portraits de mecs qui exercent le métier d'ouvrier, c'est par exemple Alain Guiraudy, qui avait fait L'Inconnu du Lac, où dans ses films, il y a des mecs qui ont ce métier. Mais sinon, c'est très compliqué de le trouver. Ou alors, ça va être peut-être des cinéastes ultra intello qui vont gargariser d'avoir mis un personnage prolétaire dans leur film, mais sauf que Michael ne le verra jamais, puisqu'il y a des plans séquences de 25 minutes et il a, je sais pas, une espèce de prix absurde à Cannes, enfin, un truc du petit milieu, quoi. Donc en gros, ça n'arrivera pas forcément jusqu'à ses oreilles. Mmh. Et aussi, pour ce qui est du militantisme, des collectifs, des endroits, même des endroits de sortie, moi, ça m'a beaucoup blessé quand des gens disaient que si les gays qui n'étaient pas là dans les collectifs, c'était qu'ils étaient de droite, venant de la part de personnes ultra privilégiées, supposaient que mon cousin est de droite, alors qu'en fait, sa vie quotidienne et son statut salarial font qu'il est de fait de gauche, sauf qu'il n'a aucun endroit pour se la péter et montrer son militantisme. Il faut aller le chercher, en fait. Enfin, il faut trouver des moyens d'ouvrir les bras, d'accueillir... des Michael dans ces espaces, parce que non, il n'est pas de droite. Mais par contre, j'ai pu entendre des gens dire ça. Mmh. Donc c'était aussi une réponse à ça.
Ouais, oui, lui donner une existence sur le papier, c'était déjà... Au final, c'est un acte militant, en fait, hein, c'est vraiment ça.
Bah après, il a découvert que le livre était dans des librairies, il était là, mais c'est pas possible. En plus, j'ai fait exprès de mettre une photo de nous, bébé. Ouais. C'est la seule photo du livre, pardon.
C'est très bien, c'était une très bonne idée. on ne va pas pouvoir parler de chacun des articles, mais j'invite vraiment chacune à lire la suite, parce qu'il y a vraiment une complémentarité de tous vos sujets et vos endroits de parole, avec un petit clin d'œil à Nanténé Traoré qu'on avait déjà reçu à la librairie et dont le texte est magnifique. Merci beaucoup Anthony.
Merci.
Merci beaucoup Camille.
Merci.
Merci beaucoup Adrien.
Merci beaucoup.
Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Affranchie Podcast en compagnie d'Anthony Vincent, Camille Desombre et Adrien Nazelli à l'occasion de la publication de leur ouvrage collectif PD aux éditions Point. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec L'Affranchie Podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.